hors champ. Jean, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Claire Lanne d'Arcueil. Claire Lanne d'Arcueil, vous êtes comédienne, metteuse en scène, directrice d'institutions théâtrales, en ce moment en charge du conservatoire à Paris. Vous êtes venue avec des livres, pourquoi ?
Pour me sentir un petit peu moins craintive.
Vous avez peur ?
Oui, comme je vous disais, c'est toujours une responsabilité. C'est jamais un dû qu'on vous donne la parole. Donc on a le rêve de dire 2-3 choses utiles et on n'est pas sûr d'y arriver.
Mais justement, à partir de quel moment vous êtes-vous senti autorisé à prendre la parole ? Est-ce que c'était à la fin de l'adolescence ?
À 10 ans, mon professeur de français nous a fait faire du théâtre et en fait je n'ai aucun souvenir avant 10 ans.
Vous parliez pas avant de faire du théâtre ?
Non, mais j'ai pas parlé non plus après. Au moment où on faisait du théâtre, je m'appropriais les mots. Sinon, non, j'ai été un dauphin une grande partie de ma vie. Et ce qui a fait une rencontre très simple avec les personnes sourdes et sourdes aveugles, bien plus tard, une rencontre absolument naturelle, puisque le fait de vivre sous l'eau m'était familier. Mais je ne dis pas que j'étais malheureuse, hein, mais j'étais tout à fait inadaptée, ça c'est sûr. Mon père disait, je ne sais pas comment... Mon père m'adorait hein, par ailleurs, mais il disait, tu n'auras jamais des relations normales aux autres. Et en fait, l'endroit où j'ai rêvé, où quelquefois je suis arrivée à construire des relations normales aux autres, c'est par le théâtre. Et c'est pour ça que le trajet est rempli... D'une conviction, d'une foi très forte en ce pouvoir de guérison, le pouvoir du théâtre de faire venir au monde des gens qui ont du mal à y naître.
Mais vous, le théâtre, c'est la possibilité d'aller le plus près des gens sans forcément articuler des phrases. Vous avez fait des spectacles muets.
Oui. Oui, oui. Alors ça, c'est quand c'est allé mieux, je dirais, nettement mieux. Le silence est devenu ludique grâce au théâtre. Les mots sont devenus ludiques, tout est devenu un jeu. Et du coup, la vie est devenue légère.
Donc ça s'appelait « J'irai dans les cafés, je rencontrerai des milliers de gens ».
Oui.
Et là, vous alliez réellement dans les cafés.
Oui, là, j'étais vraiment toute petite. Hein. J'avais 20 ans quand j'ai fait ce spectacle et il a été vu par 4 personnes.
Oui, mais
c'était important.
Ça avait effectivement changé le rapport au théâtre et vous inventiez un nouveau rapport aussi, d'abord à l'espace théâtral. On pouvait faire du théâtre partout. Et puis aussi à la possibilité de toucher des gens qu'on ne touche pas forcément dans le monde culturel qui est le nôtre. Et je crois que c'est quand même un des fils rouges qui traverse votre existence. C'est aller chercher des gens qui ne s'autorisent pas ou qu'on n'autorise pas à aller au théâtre pour pouvoir les toucher.
C'est ça. J'ai ressens comme une souffrance personnelle, comme une offense personnelle, le fait que tant de gens se disent « ce n'est pas pour moi ». C'est une offense... qui est dans mon corps. Et c'est vraiment pas difficile de réconcilier l'art avec l'intelligence populaire, avec les cultures diverses comme la culture sourde, par exemple, avec toutes ces multiplicités de cultures, ça n'est pas difficile. Il suffit en fait de pratiquer ce que mon grand ami qui a disparu, qui s'appelait Dominique Guillard, appelait le théâtre horizontal, c'est-à-dire faire disparaître le rapport de force, ce dont on rêve dans la vie, dans les rapports humains. Faire disparaître l'idée qu'il y a quelqu'un qui sait, quelqu'un qui écoute, mais découvrir ensemble la beauté du présent, à égalité. Ça, c'est un fil qui a été rempli de joie, devant lequel j'ai toujours eu un étonnement profond lorsque j'entendais, quand on avait disparu des Sunlight et qu'on était 15 ans sous chapiteau dans cette aventure tellement merveilleuse, tellement heureuse et tellement partagée, que je ne conduisais pas, qui se conduisait toute seule ou qui était conduite principalement par l'équipe technique, en fait. Cette aventure, elle a été inventée principalement par ceux qui l'ont faite.
Alors, il faut expliquer, Claire, que vous avez décidé de prendre des chemins de traverse par rapport aux institutions théâtrales. Mm-hmm. Et vous avez décidé de partir sur les chemins avec un chapiteau et de pouvoir vous arrêter, y compris dans des tout petits villages, y compris sans savoir s'il y aurait des spectateurs sous le chapiteau. Pourquoi ? Pour attendre quoi ? Pour redéfinir l'art du théâtre ou pour redéfinir l'attente que devrait susciter le théâtre ?
Ce mouvement-là, il est parti d'un moment où on s'est connus, d'ailleurs toutes les deux, hein, et où je me suis félicitée que vous soyez dans ma vie à cette époque-là, c'était pas si facile, au moment du succès de Platonov. C'est Bachung qui dit que ces grandes périodes de dépression ont toujours été après Gabi et Vertige de l'amour, et que quand plus personne ne voulait de lui, il se portait comme un charme. Voilà, moi la réussite me pose un vrai problème quand elle arrive dans ma vie. La réussite sociale, la reconnaissance, c'est très loin de me rendre heureux. Ça me pose énormément de questions, d'imposture, de voilà. Donc Platonov a été un bonheur aussi. Mais il a été une vraie déflagration.
Ça a été une consécration et ça a été effectivement les Sunlight.
Voilà, la consécration est pas loin de l'oraison funèbre, si vous voulez. Il y a quelque chose d'assez terrifiant dans l'idée que on est à ce point-là et du coup.
Ça veut dire quoi être à ce point-là ? On rénove la vision de Tchekhov, met en scène cette première pièce de Tchekhov. Et tout d'un coup, effectivement, on voit la naissance d'un metteur en scène, en l'occurrence vous, et une autre lecture de ce texte. Et là, ça vous fait peur.
En fait, ce qui m'a fait peur, c'est l'idée que j'allais m'adresser toute ma vie aux mêmes 500 personnes. Et que de ce dialogue, il ne sortirait pas grand-chose. Tout ça vient d'un orgueil très profond, hein. Il y a de la modestie, mais il y a aussi de l'orgueil. Et mon orgueil, il est vraiment placé dans le fait d'avoir une démarche risquée, réellement risquée, comme artiste. De prendre le risque de se réinventer complètement. Il y avait un malentendu qui était que j'étais arrivée quelque part et que je n'étais arrivée nulle part. Je ne faisais qu'avancer dans le noir, comme tout le monde. Et voilà, avec de temps en temps, oui, des intuitions. Et que ces intuitions, en fait, si on ne se met pas en disponibilité de les recevoir, d'être traversé par elles, si on se met dans une assurance que ce qu'on fait, c'est bien, que ce qu'on fait est légitime, alors elles disparaissent, ces intuitions. Dès qu'on s'installe dans n'importe quel pouvoir, on n'est plus à même de les repérer, de les ressentir. On est concentré sur autre chose, sur sa place. Donc j'ai du coup saisi l'occasion, après quand même pas mal d'hésitations, hein, c'est grâce à une femme qui s'appelle Mireille Barrier, qui est disparue elle aussi et qui était adjointe à la culture à Poitiers et qui est littéralement venue me chercher par les fesses à Paris, hein, pour que je dirige le centre dramatique à Poitiers.
C'est-à-dire que vous avez accepté l'institution, oui. Et en même temps vous l'avez subvertie.
Oui, on peut dire aussi que j'ai juste, mais c'est souvent ça la subversion, donc vous avez aussi raison, pris strictement au pied de la lettre la mission de décentralisation, mais au pied de la lettre. C'est-à-dire, je n'ai pris que ça. De la même manière, aujourd'hui, ça me passionne de prendre au pied de la lettre le fait de diriger une école. Voilà, c'est de prendre les choses dans leur nature première. Et du coup, la nature première des centres dramatiques, ben, vous la connaissez, cette histoire, la manière dont ça a été créé. Donc c'est dans ce mouvement-là politique, artistique et humain, que je me suis inscrite. J'ai mis mes pieds dans les pas de Jean d'Asté et de toutes ces figures-là. J'ai réinventé l'eau chaude, simplement. Dans la réinvention de ces choses primaires, j'ai rencontré des gens. Et ces gens, donc... évidemment, Laurent d'Arcueil, avec qui je dirigeais le centre dramatique, mais ensuite Vincent Gattel, et l'équipe technique était dirigée, elle, par Sylvain Girard. On ne sait pas, finalement, qui a dirigé le centre dramatique. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette histoire. Je ne crois pas du tout que j'ai dirigé le centre dramatique. Je crois que chacun a pu y écrire une histoire, et son histoire avec les mots, et que les gens qui ont monté le chapiteau pendant 12 ans, à Lavosseau, à Saint-Maurice-la-Clouère, à Méché, tous ces gens, ils ont écrit cette histoire. Et ça, j'en suis extrêmement fière, puisque, comme vous disiez, c'est l'un des fils rouges. Il y a une chose avec le chapiteau qui est toute simple, vous savez, c'est qu'on ne peut pas jouer si on n'a pas d'aide pour le monter. Ça, c'est un luxe extraordinaire qu'aucun directeur de théâtre ne peut se permettre. C'est-à-dire, il ne fait pas un audit dans sa ville pour savoir si les gens ont envie qui donne un spectacle ou pas. Eh bien, nous, on le faisait, d'une certaine manière. Parce que s'il n'y avait personne pour nous donner à manger, pour nous loger et pour monter le chapiteau, on ne pouvait pas jouer. Et ce rapport-là, c'est toujours le théâtre horizontal dont parlait Dominique Guillard. Hein. C'est se mettre ensemble dans l'action. Et c'est ce qui m'a, à l'époque, fait peur à Paris, dans cet endroit choyé, béni, où j'ai été... Aimé, et où j'ai pris confiance en moi grâce à Patrick Gufflet, qui est le théâtre Paris-Villette, à qui je dois d'avoir
qui
osé
faire
ça.
Qui ne dirige plus maintenant, hélas.
Voilà. et qui m'entend peut-être en Afrique, donc j'embrasse. Voilà, donc dans sortant de cette affection tellement active, je me devais de prendre des risques.
Voici ce que vous écriviez en 2007. Ça a commencé à Paris, cette impression que quelque chose clochait. Tout allait bien pourtant. Ça s'est propagé dans d'autres salles, en province, et puis ça a tout envahi. Quelque chose s'était mis à boiter, à mes yeux, à nos yeux. Nous sommes partis, parisiens de naissance ou de formation, et peu de temps plus tard, nous étions dans un chapiteau rouge, sous une pluie battante. La pluie, le vent, le froid, très vite nous avons changé nos habitudes vestimentaires. Très vite, nous avons cessé de nous coucher tard pour être à l'heure dans les écoles le lendemain. Nous avons compté différemment les jours de la semaine. Dimanche, montage du chapiteau. Dimanche et lundi soir, spectacle chez l'habitant. Mardi, spectacle jeune public. Jeudi, spectacle avec les amateurs. Vendredi, spectacle tout public. Nous nous sommes méfiés des rhumes qui auparavant paraissaient dérisoires. Très vite, nous nous sommes disputés. On est mal logés. Aller dans des écoles, pourquoi faire? Mon métier, c'est pas animateur. Mon métier, c'est le théâtre. On tournera jamais ces spectacles. Le chapiteau, personne n'en veut. Et pourtant, vous avez tenu bon. Et ce qui s'est passé dans cette démarche, et ce qui s'est passé aussi dans cette pratique, c'est que peut-être, effectivement, des spectateurs, et pas seulement vous, Claire Lanne, mais des spectateurs... ont vu du théâtre comme jamais peut-être le théâtre ne se donne aujourd'hui dans des salles.
C'est sûr. Ça, on peut le dire sans prétention. C'est sûr que on a parlé à des gens à qui personne ne parlait. Ça, c'est certain. Et un monsieur, au tout début de l'aventure du chapiteau, c'était vraiment la toute première édition, qui est venu me voir et qui m'a dit « ça aurait été dans une salle, j'aurais rien compris ». Et c'était un moment où j'attendais le signe de savoir est-ce qu'on a fait une énorme bêtise ou est-ce qu'on continue. Et cette phrase m'est restée. J'ai dit d'accord. Donc là, on va continuer. On va continuer. Il fallait aussi savoir arrêter cette aventure. Celle-ci aussi. On ne pouvait pas... Vous connaissez la chanson de Jane Birkin qui s'appelle « Fuir le bonheur hein ». Il y avait quelque chose au bout de toutes ces années qui était devenu dangereux dans l'amour qui circulait entre nous, le public, cette région. cette aventure et qui pouvait, elle aussi, fabriquer une prison de la même manière que le milieu parisien pouvait fabriquer une prison. Je ne crois pas qu'il y ait de bons et de mauvais milieux. Je ne crois pas qu'il y ait plus de gens intelligents en milieu rural qu'à Paris non plus. Il ne faut pas tomber non plus dans l'autre, l'autre excès. Je crois que ce que peut fabriquer le théâtre, comme tous les milieux, mais peut-être davantage, c'est à un moment donné des poches fermées qui se parlent à elles-mêmes. Et c'est à ce moment-là que ça cesse d'être intéressant. Je trouve le moment où on cesse d'être ouvert et disponible au monde entier, à l'univers entier, aux morts et aux vivants, à ceux qu'on aime et à ceux qu'on n'aime pas, à ce moment-là, je pense qu'il faut changer de route. Si on devient un cercle d'amis qui échange des acquis, il faut absolument réinventer par respect pour les gens à qui on s'adresse. J'ai pas regretté d'avoir démissionné du Centre dramatique. Je dirais pas non plus que ça a été facile, cette démission. Mais j'ai beaucoup dit que c'était une décision parfaitement sereine et c'était parfaitement faux. C'est-à-dire, je l'ai dit pour que ce soit plus simple pour les autres. C'est difficile de quitter un endroit où on sait qu'on sera heureux demain. C'est pas évident.
Mais vous vouliez pas devenir une professionnelle de la profession?
Un notable. Voilà. C'est-à-dire, le danger à Paris, c'est de faire partie d'une élite. Le danger en province, c'est de devenir un notable. Donc, il y a quelque chose avec lequel il faut faire de la godille, hein, comme au ski, et essayer de rester libre, essayer de rester dans son enfance. Ne pas quitter son enfance, ne pas s'éloigner trop de cette enfance que j'ai le sentiment du coup de retrouver aujourd'hui dans cette école, mais que je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché à venir là. C'est parce que j'ai ouvert la porte pour que ça arrive.
Mais comment? Parce que c'est incroyable dans votre itinéraire, Claire Lanne, c'est-à-dire que vous êtes une des rares comme ça. Sauvageonne du monde du théâtre, et en même temps, on vient vous chercher, donc diriger ce centre dramatique du Poitou-Charentes pendant de très nombreuses années, démissionner, vous cacher tout en continuant votre pratique artistique, et hop, on vient vous chercher pour diriger la plus grande école de France, la plus prestigieuse, la plus enviée. Je pense que les candidatures ont dû se multiplier, mais non, c'est vous qu'on vient chercher.
Ben là, j'ai pas compris, moi. C'est vrai que c'est vraiment... Alors, on est venu me chercher pour être candidate, pour que j'écrive un dossier. On est venu me chercher parmi d'autres, mais on est quand même venu me chercher. Et c'est vrai que c'est quand même à l'honneur, je dirais, de l'équipe de ce ministère d'avoir juste eu l'idée de venir me chercher. Je trouve que ça témoigne d'une imagination certaine, je le dis en riant, mais c'est vrai qu'il fallait quand même penser à ça. Je ne sais pas, j'ai toujours pas très bien compris.
Vous n'avez jamais fait le conservatoire?
Si.
Vous êtes
si,
une ancienne.
Oui, j'étais élève au conservatoire.
Et quel souvenir gardez-vous du conservatoire?
Absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Vraiment merveilleux. J'y ai rencontré les gens, les acteurs avec qui j'ai travaillé ensuite, toute ma vie. Rien que ça.
Et le concours, vous vous en souvenez de votre concours?
Très bien. J'ai passé Claire Lanne dans Claire Lanne. J'ai passé l'amante anglaise de Marguerite Duras. Le personnage s'appelle Claire Lanne.
Donc, c'est étrange que vos parents vous aient appelé Claire.
Je ne crois pas qu'ils connaissaient. Je pense que même la pièce date d'après, il me semble. Je ne crois pas que... Ils m'ont appelé Claire au dernier moment. Hein. Je devais m'appeler Nicolas. Donc c'est mon père qui m'a sauvée de Nicolette.
Bien, nous allons écouter Marguerite Duras parler du théâtre et ensuite un extrait de L'amante anglaise où Claire Lanne est au centre. Donc c'est des archives avec Gilbert Maurice Dupresse du 26 janvier 1968.
Je ne crois qu'au théâtre qui se fait là, sous nos yeux, mais à partir des propos tenus. Tout le départ d'une pièce, son action s'il y en a une, et sa fin doivent se passer là, à mon avis, sous les yeux du spectateur. toute l'instantanéité, si on peut dire, de la pièce. Elle doit se passer là. Dans le chaga, la personne qui parle le chaga dit devant nous qu'elle ne sait pas qui elle est, ni pourquoi elle rit. Et c'est à partir de là que la pièce démarre. Et quand elle se termine, mon Dieu, rien n'arrive en dehors de ce que vous voyez. Ils se séparent, ils vont chacun de leur côté, probablement. Elle n'a pas de conséquences autres que celles que vous voyez sur la scène. Et elle n'est pas provoquée par autre chose que par ce que vous voyez sur la scène. C'est-à-dire que c'est un spectacle sans commencement ni fin. Je pourrais en faire 3 kilomètres. Rien n'est raconté à proprement parler, n'est-ce pas ? Ça me plairait assez de dire que c'est une sorte de happening fixé. Voyez-vous ? Qu'à l'origine de la pièce, il y aurait eu un happening que j'aurais arrêté. Il n'y a pas de raison pour que ce soit ça ou autre chose. Autre chose ou ça. Il pourrait divaguer, je parle surtout du chaga, sur des tas d'autres sujets. Aller d'un sujet à l'autre, oublier, recommencer. S'égarer, ne plus se reconnaître, repartir dans un autre sens. C'est, je pense, ce qui a déconcerté la critique et aussi sans doute une partie du public, oui. C'est de ne pas trouver le fil. Mais comment les prévenir qu'il n'y en avait pas ? C'était mon problème. Le langage est moteur, c'est à partir des mots qui démarrent, n'est-ce pas ? Exactement. Si vous vous souvenez, il parle de l'oiseau. Il dit qu'un oiseau est arrivé chez lui un matin. Et les deux femmes lui demandent comment il a pris la chose. Et il dit, je l'ai prise en considération. Ce mot considération est en bas de toutes les lettres de la bourgeoisie depuis 100 ans. Il ne veut strictement rien dire. Mais quand même, il fait démarrer des fantasmes chez les fous. Ça a un sens, mais nous ne savons jamais lequel. C'est comme une proposition, comme un peu mes livres, si vous voulez. Une proposition théâtrale. À partir de quoi tout spectateur est libre de s'y intéresser ou de s'y retrouver.
Mon mari, il est comme un échalas. Eh bien, lui, je le trouvais trop haut pour la maison. Quelquefois, j'allais dans le jardin pour ne pas le voir se balader là sous les plafonds. C'est vous dire. Vous voyez, il y avait des chats, des choses qui n'allaient pas dans la maison.
Mais... dans le jardin, il ne venait pas.
Non.
Et parlez-moi de ce jardin.
Il y a un banc en ciment et des pieds d'amande anglaise. C'est ma plante préférée. C'est une plante qu'on mange et qui pousse dans des îles où il y a des moutons. Je dois dire que, quelquefois, je me suis sentie très intelligente sur ce banc. À force de rester immobile, j'avais des pensées intelligentes.
Et comment le saviez-vous ?
On le sait. Maintenant, je suis la personne que vous voyez devant vous, rien d'autre.
Et... qui étiez-vous dans le jardin ?
Celle qui reste après ma mort.
Est-ce que vous faisiez beaucoup de choses qui vous déplaisaient et vous plaisaient à la fois ?
Quelques-unes.
Et cela vous plaisait comment ?
J'y pensais après, dans le jardin.
Quoi, chaque jour, de la même façon ?
Ah non, jamais.
Vous pensiez à une autre maison ?
Non, je pensais à celle qui était là.
Mais sans eux dedans ?
Non, avec eux. Je cherchais des explications. Oh, des explications auxquelles ils n'auraient jamais pensé, jamais.
Mais des explications à quoi ?
Oh, à bien des choses.
Nous venons d'entendre donc la voix de Duras, puis un extrait donc de La Mante anglaise, avec au centre de cette pièce de Marguerite Duras, donc cette femme interprétée par Madeleine Renaud, qui s'appelle Claire Lannes, comme vous, et Lonsdale qui lui donne la réplique. C'était une mise en scène, je crois, de Claude Régis,
oui.
À cette période-là. On peut dire que vous êtes très proche de Duras, pas seulement par le fait que vous portez un nom qu'elle a inventé, mais aussi peut-être par la définition de ce qu'elle espérait du théâtre.
Oui, je suis assez saisie, je dois dire, par le choix que vous avez fait. Décidément, vous m'étonnerez toujours. Parce que, d'abord, ce que dit Marguerite Duras, c'est oui, je m'y reconnais, modestement. Et puis parce que ce spectacle, c'est le premier spectacle que j'ai vu avec ma grande sœur, Noël, qui est médecin. Qui est un médecin exceptionnel, qui est une femme exceptionnelle, et qui m'a conduite là.
Et à cause de ce nom-là.
Je crois pas. Je crois pas qu'elle y ait pensé.
C'est un hasard.
Ouais. Je crois. Hein. J'ai jamais posé la question, mais du coup j'ai quand même entendu tout le spectacle, Maëlle Colonzal qui tapait sur la table en disant Claire, l'âne, puisque c'était un interrogatoire. Et donc j'étais pas vieille quoi. Et je bondissais à côté, donc comme interpellation, comme il y avait pas mieux. Et ensuite, c'est mon passage préféré. Donc là, c'est quand même très fort. Ce passage où elle dit, sur ce banc, j'ai eu parfois des pensées intelligentes. J'en ai parlé il y a très peu de temps aux élèves pour leur dire les endroits où on peut être intelligent, les endroits où on est bête, les endroits où on peut laisser venir l'intelligence. Et voilà, je suis saisie. Vous écrit un livre sur Marguerite Duras que j'aime beaucoup, et vous en avez écrit un autre sur Hannah Arendt, et il y a un fil entre ces deux femmes sur l'immobilité. C'est-à-dire Hannah Arendt qui s'allongeait pour fumer et laissait venir à elle la pensée. C'est exactement ce qui est dit dans cette pièce-là. La capacité, je crois beaucoup à ça pour pas devenir trop bête hein, et pour pas se répéter trop.
Quand viennent les idées au théâtre, selon vous ?
Je crois, en tout cas, quand je disais ça aux acteurs, je crois quand on a choisi de jouer, c'est au moment, c'est dans la position du jeu, c'est-à-dire en danger sur scène avec l'adrénaline qui monte et le cœur qui s'accélère et tout ce phénomène physique, biologique qui se produit là, qu'on est alors protégé de quelque chose et que tous les neurones fonctionnent à plein. C'est très proche de l'enfance, hein. Je vous avais apporté pour ça Enfance de Nathalie Sarraute qui décrit ça, cette petite fille qui court, qui se jette sur la terre, qui la respire et c'est ça l'enfance. Et le jeu est extrêmement proche de ça, d'un rapport absolument physique à la nature, au cosmos, ludique, hein, c'est ce que je dis est pas du tout mystique, mais où là on est dans une connaissance du monde par tous les pores. Et on atteint effectivement on est traversé par des pensées dont on soupçonnait pas l'existence, dont on soupçonnait pas qu'on puisse les avoir.
Mais peut-être vous pouvez lire un extrait puisque vous êtes
Nathalie Sarraute, oui.
Avec plusieurs textes dont Sarraute, Enfance.
Je vous ai dit, je vais lire un tout petit bout. Je dévale en courant, en me roulant dans l'herbe rase et drue, parsemée de petites fleurs des montagnes, jusqu'à l'Isère, qui scintille au bas des prairies, entre les grands arbres. Je m'agenouille sur son bord, je trempe mes mains dans son eau transparente, j'en humecte mon visage, je m'étends sur le dos et je l'écoute couler. Je respire l'odeur de bois mouillé, des énormes troncs de sapin écorcés, portés par son courant et qui ont échoué près de moi dans les hautes herbes. Je colle mon dos, mes bras, en croix, le plus fort que je peux, contre la terre couverte de mousse, pour que toutes les sèves me pénètrent, qu'elles se répandent dans tout mon corps. Je regarde le ciel comme je ne l'ai jamais regardé, je me fonds en lui, je n'ai pas de limite, pas de fin. Voilà, pour moi ça c'est vraiment jouer. C'est vraiment, c'est ça, jouer. Je crois que c'est ça que viennent chercher les gamins au conservatoire. Ou partout, c'est ce goût d'appartenir au monde et de sentir de tout son corps qu'on est en mouvement, qu'on est vivant.
Et le basculement de la mise en scène, ça s'est fait comment ?
Ça s'est fait pour Mohamed. Ça s'est fait,
Rouhabi,
oui, ça s'est fait parce que Mohamed Rouhabi a
écrit. Car vous êtes une
écrit.
Metteuse en scène qui montait aussi bien des textes classiques que du contemporain.
Ben, c'est plutôt que je suis une metteuse en scène obsessionnelle. C'est-à-dire, j'ai monté tous les textes de Mohamed Rouabi, ensuite j'ai monté tous les textes de Tchekhov. Voilà, grosso modo, j'ai fait quelques autres choses dont vous parlez, sur le silence et comme joyeux anniversaire. Mais grosso modo, c'est ça, mes fils, hein, c'est de dérouler une œuvre. Alors, je suis bientôt finie avec Tchekhov, donc je ne sais pas ce qui m'arrivera ensuite. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est le fait que Mohamed écrive et qu'il ait besoin que ce soit entendu. Au départ, c'est ça. Et qu'on était entouré de Richard Samut, de Laurence Iserman, de gens qui sont devenus mes camarades pendant des années. Et on a.
Vous avez créé une compagnie qui s'appelait Les Acharnés. Pourquoi ?
Ça, c'était nous deux, je dirais, Mohamed et moi, mais surtout Mohamed. Moi, j'ai accompagné sa rage, j'ai accompagné sa colère, j'ai essayé de faire dévier sa haine.
Donc ça sert à ça aussi, le théâtre.
Ça sert à ça.
À être entendu.
À faire dévier la haine, oui. À transformer la boue en or, oui, ça c'est sûr. À transformer la rancœur en rêve. Donc j'ai... Mohamed est complètement exemplaire sur le trajet que peut faire quelqu'un parti de si loin, parti du noir, parti de l'abandon total de la société et de tout pour apprivoiser les mots. Donc j'ai passionnément dévoué mon travail à accompagner son trajet jusqu'au nouveau bâtisseur. Et ensuite, j'ai passionnément dévoué mon travail à Tchekhov. Mais voilà, ça a été vraiment la raison pour laquelle j'ai fait ça. Ceci dit...
Est-ce qu'au conservatoire, vous allez maintenir ces deux orientations majeures et à égalité, c'est-à-dire absolument. L'apprentissage des textes classiques avec les textes contemporains ?
Oui, oui, bien sûr. C'est formateur d'une toute autre manière, mais c'est structurellement formateur, je suis attachée au répertoire d'une manière aussi forte que Daniel Mesguich, et je le partage complètement avec lui. J'y suis attachée parce que c'est mon terreau, je dirais. Mais on est heureux à interroger et à apprendre à faire entendre les langages d'aujourd'hui. Et ça fait intégralement partie de la formation. Donc j'ai de la chance, les auteurs sont plutôt... ont envie de travailler au conservatoire. Ils sont heureux de ça. Il y a peu de temps, il y a un atelier qui s'est déroulé, qui était un texte de Laurent Godet. Et c'était magnifique, son envie. Je lui dis bien sûr, la porte est grande ouverte si tu veux travailler. Et il prenait ça comme un cadeau, alors que c'est un cadeau que les auteurs viennent travailler au conservatoire. Mais c'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'il y a une révélation dans le frottement entre ces écritures d'aujourd'hui et ces jeunes gens d'aujourd'hui, qui est l'espoir d'une chose qu'on ne connaît pas encore. Et ça, il n'y a rien qui nous excite plus, qui suscite plus notre désir que de laisser naître, et je crois que c'est l'objet du conservatoire aussi, de laisser naître, d'accompagner, mais de ne pas diriger ce qu'on ne connaît pas encore, qui peut avoir lieu, qui est le théâtre que ces jeunes gens-là vont faire. Moi, ça m'occupe vraiment passionnément de me dire, il faut, comme Gilles Clément avec son jardin en mouvement, quand il dit, il faut pas trop couper, il faut pas trop faire d'aller, il faut pas trop décider de ce que doit produire la nature, il faut l'accompagner. Sinon, c'est la loi du plus fort, ça c'est sûr. Sinon, il y a des pissenlits partout, il y a des orties partout, et il n'y a plus rien d'autre. Donc bien sûr qu'il y a besoin d'une intervention humaine dans le mouvement de la nature, mais il ne faut pas faire des jardins à l'anglaise partout. Enfin, il faut être dans l'accompagnement de la sauvagerie dans laquelle il y a le talent, dans laquelle il y a la révélation de la vie future. Ça, c'est un endroit vraiment de bénir ces friches que sont ces rencontres entre ces jeunes gens. Je voudrais aussi qu'ils puissent rencontrer beaucoup les autres jeunes gens des écoles d'art, d'ouvrir un espace et un temps où ils peuvent, où on leur non pas on décide de ce qu'ils vont faire ensemble, mais on les encourage, on leur laisse l'espace de le faire, de l'inventer, de se frotter les uns aux autres. C'est vraiment un endroit, je remercie beaucoup la vie de m'avoir mis à cet endroit-là, mais c'est complètement passionnant, vraiment.
Ben, peut-être ça arrive à un moment béni par vous et pour vous. De toutes les façons, vous êtes une passeuse de signes et de langues aussi. Et tous vos spectacles sont aussi dédiés et traduits en langage des signes. Pourquoi ?
Alors, ça
aussi, vous êtes la seule à faire ça.
Je crois, oui. C'est parti en fait d'une conviction politique toute bête hein, qui est tout le théâtre français part du postulat que les sourds viendront en groupe. Donc, au mieux, hein. Donc au mieux, on traduira quand il y aura un groupe. Donc c'est déjà une manière de limiter les êtres humains et leur liberté, leur intégrité, au fait que s'ils sont sourds, ils se déplacent en groupe. Voilà. Quand on dit ça, on comprend bien ce que ça a d'épouvantable. Il suffit de l'énoncer pour s'apercevoir que c'est épouvantable, que ça n'est pas acceptable. Mais il n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est toujours cette histoire de prendre les choses au pied de la lettre. À partir du moment où c'est épouvantable, on ne l'accepte pas, donc on traduit tout le temps. Voilà, c'est vraiment aussi bête que ça. Ensuite, moi, j'adore ça, la langue des signes. Hein. C'est une culture. C'est pas un langage par défaut, c'est une culture et...
Qu'avez-vous appris dans cette fréquentation et dans cette fécondation ?
La fierté d'être... c'est-à-dire, c'est... Les entendants appellent souvent les sourds et malentendants. C'est-à-dire comme... Donc c'est une chose que les sourds rejettent très fortement, disant nous sommes sourds. Donc il n'y a pas de handicap là-dedans. Donc c'est de faire d'un accident préalable, une fierté, et d'en faire une culture, et d'en faire un endroit de partage finalement, un endroit de
mais ne pas entendre, évidemment, c'est pas du tout ne pas comprendre. Mais vous, dans votre pratique du théâtre, ne pas entendre, quand on est sourd, c'est peut-être comprendre autrement.
Bien sûr, c'est par exemple le rapport des sourds à la musique, moi m'a passionné, c'est-à-dire le fait que par des vibrations, les sourds étaient pouvaient être de très grands danseurs, de très grands chanteurs. C'est complètement sidérant. C'est là où moi j'ai vraiment eu des vertiges, par exemple, c'est avec les personnes sourdes aveugles, c'est-à-dire arriver à entretenir une communication avec des personnes qui ne vous voient pas et ne vous entendent pas, et être dans une communication réellement humaine et réellement artistique, je ne pensais pas que c'était possible, vraiment. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il n'y a pas de limite, il n'y a que celle qu'on se pose à soi-même dans l'imagination de l'art et de la vie. Si on décide que c'est possible, c'est Gilles Clément dit ça aussi. Il a écrit un petit texte là sur les recettes pour habiter la terre qui finit comme ça. Se lever le matin en se disant que tout est possible, il suffit qu'on le décide. Que voilà, ça m'a beaucoup mis là-dedans, la fréquentation de ces personnes. Et puis. Vous savez que j'ai eu une vie accidentée, donc elle était très accidentée précisément au moment où j'étais en compagnie de ces groupes. Et finalement, ça m'a beaucoup soutenue de me dire, voilà, bon, moi, tout le monde meurt autour de moi, ok, tous mes proches disparaissent, mais je suis en face de gens qui peuvent à peine marcher, qui peuvent pas entendre, qui peuvent pas voir, et qui sautent de joie quand on se retrouve. Et cette forme de joie à juste dire voilà, je suis vivant, m'a beaucoup beaucoup soutenue. Donc je sais pas finalement qui a soutenu le plus l'autre hein. Je crois qu'ils m'ont parce qu'ils m'ont aimé aussi, m'ont donné beaucoup d'affection beaucoup de réconfort. Je pense qu'on s'est soutenus mutuellement à un moment où j'en avais besoin, probablement.
Vous êtes arrivée avec beaucoup de livres, comme des doudous, qui sont ouverts devant vous, à des pages. Et là, je vois un gros Pléiade. C'est quoi ?
C'est Henri Michaud. C'est mon chéri, Henri Michaud. Voilà, c'est avec Anton Tchekhov. Quand ça ne va pas, il y a toujours, par exemple, Poteau d'angle. C'est un tout petit livre d'Henri Michaud, de petites phrases, qui malheureusement n'est pas dans la Pléiade. Et comme je l'ai beaucoup donné, Poteau d'angle, je ne l'ai plus. Donc je l'ai cherché, mais je trouvais ça joli de plus l'avoir, à force de l'avoir donné. Donc je voulais vous l'apporter, puis j'ai vu que je ne l'avais plus. C'est un livre dans... Il y met plein de petites phrases qu'il y a à vivre. Il y en a une qui est très drôle. Je pense que vous saurez à quel moment j'ai pensé à ça, mais où il dit « Celui qui n'a jamais été détesté lui manquera toujours quelque chose. Les anticorps manquent. » Voilà, c'est des trucs où ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est pas mal aussi, ça. Et plein de petites phrases comme ça qui, moi, ont été vraiment des petits poteaux d'angle. Et là, j'ai amené tout le gros livre au cas où. Pour vous. Vous voulez que je vous en lise un petit bout ?
Oui.
C'est un petit texte que je ne connaissais pas, en fait, qu'il a écrit. C'est une préface qu'il a écrit à propos du livre qui s'appelle « Mes propriétés ». Et dans cette petite préface, je trouve qu'elle correspond à ce qu'on pourrait dire de la vie, de sa vie, plus que du livre. Donc, les morceaux... Sans lien préconçu, ils furent faits paresseusement, au jour le jour, suivant mes besoins, comme ça venait, sans pousser, en suivant la vague, au plus pressé toujours, dans un léger vacillement de la vérité, jamais pour construire, simplement pour préserver. Ce livre, cette expérience, donc, qui semble toute venue de l'égoïsme, j'irais bien jusqu'à dire qu'elle est sociale, tant voilà une opération à la portée de tout le monde, et qui semble devoir être si profitable aux faibles, aux malades et aux maladifs, aux enfants, aux opprimés et inadaptés de toutes sortes. Ces imaginatifs souffrants, involontaires, perpétuels, je voudrais de cette façon au moins leur avoir été utile. N'importe qui peut écrire mes propriétés. J'adore cette phrase, n'importe qui peut écrire mes propriétés.
Vous êtes toujours un dauphin ?
Je crois, on le redevient, et puis en ce moment peut-être un peu, je suis dans un moment où je suis au contraire dans une vie très sociale, qui est un peu étrange pour moi. J'ai beaucoup de plaisir, mais du coup je suis très dauphin le reste du temps.
Ben merci Claire.
Merci à vous, merci.
Emmanuel Arminghe, Brigitte Bouvier, Didier Lagarde, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, toute l'équipe de Hors Champ vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.